Des fois, je suis en train de me dire qu'on est une boîte d'événementiel et qu'on est une boîte où on crée de l'expérience. Si tu veux, ça a énormément évolué. C'est qu'au démarrage, je pensais que les membres venaient pour les résultats, venaient pour la structure que l'on apporte. Mais au final, je me suis rendu compte que les gens, en fait, restent et parlent par rapport à l'expérience qu'on arrive à leur faire vivre, aux émotions qu'on arrive à leur faire vivre.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 97e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez en apprendre plus sur la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Je discute aujourd'hui avec une personne que je respecte beaucoup et qui a bâti au cours des années un mastermind connu et reconnu à travers la francophonie. Romain Collignon, fondateur de l'incubateur 56 et du mastermind 67, est avec nous aujourd'hui afin de parler d'un sujet que je considère extrêmement fascinant, les masterminds d'affaires. En ayant moi-même intégré certains groupes dans les derniers mois, j'ai cru bon d'approfondir le sujet avec un expert en la matière. Dans un entretien de près de 40 minutes, Romain nous explique les essentiels afin de lancer un mastermind performant, les techniques qu'il utilise afin de garder ses membres engagés et également l'importance du regroupement en présentiel afin de bâtir une vraie relation entre les membres. D'ailleurs, si vous désirez en apprendre plus sur les groupes de Romain, son site web est dans les notes de l'épisode. Sans plus attendre, ma discussion avec Romain Collignon. Romain Collignon, vous êtes le fondateur du Mastermind 67, un regroupement d'entrepreneurs francophones spécialisés en commercialisation de cours en ligne. Lancé en 2016, le Mastermind compte à ce jour une centaine de membres à travers l'Europe et se positionne comme un incontournable pour n'importe quel individu qui cherche à être entouré des meilleurs en francophonie en ce qui concerne les cours en ligne. Romain Collignon, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine pour ton invitation, un grand plaisir d'être là.
Et Romain, l'objectif de la discussion aujourd'hui est d'aborder ensemble les prérequis primordiaux à la création d'un mastermind. Comme je te l'ai dit un petit peu avant le podcast, c'est un sujet qui me fascine énormément. Puis de ce que j'ai pu voir, le Mastermind 67, ça n'a pas été ton premier, t'en as quelques-uns derrière la cravate maintenant. Peux-tu nous dire aujourd'hui comment tout ça a commencé pour toi il y a quelques années?
Ben avec grand plaisir. Alors déjà, merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet du Mastermind, qui est un sujet qui me passionne. Je t'en parlais juste tout à l'heure, Mastermind, on en mange tous les matins au petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose qui dans l'entreprise nous anime. Et oui, effectivement, les fondements, enfin, quand tu parles de 2016, je pense que c'est les fondements du Mastermind 67, c'est là où l'idée a émergé, même si la première édition officiellement a été lancée en 2017, donc ça va faire... cette année, ça sera la 5e édition. Et comment tout ça, ça a commencé? Ça a été un petit peu un chemin de découverte. Mais si tu veux, c'est à la base parti comme pas mal d'entreprises au final par rapport à un besoin personnel. Hein, souvent, on crée une entreprise par rapport à un propre besoin, une propre frustration que l'on a et qu'on cherche à résoudre d'abord pour soi, pour après la partager aux autres. Et c'est vrai que moi, je suis dans ce domaine de l'infoprenariat ou de la formation en ligne depuis 2008, donc ça fait déjà quelques temps, et je me suis pendant très très longtemps senti seul. C'est vrai que quand on est sur Internet, si tu veux, on a l'impression qu'on connecte avec plein de gens, que ça nous rassemble et ça nous rapproche. Alors certes, on connecte avec plus de gens, mais dans le fond, ça reste toujours des relations un peu superficielles. Et surtout, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain, on a besoin de profondeur dans les échanges et dans les relations. Donc si tu veux, c'est un petit peu les fondements de ce mastermind, et je remonte à quelques années en arrière. Mais j'ai commencé à faire des premières ventes en ligne en 2011. Donc et à cette époque, je connectais déjà dans tous les événements en France. Donc nous, on est essentiellement basé en France. Et je faisais des événements en France entrepreneuriaux, j'allais même aux US. Donc j'ai toujours eu ce truc de connexion à la fois pour le contenu des événements, mais aussi surtout pour ce côté peut-être réseautage, ce côté découverte, ce côté rencontre. Même si à l'époque j'étais pas l'organisateur de ces événements, j'étais toujours attiré par ça. Et moi, de mon côté, de manière informelle, j'avais mes propres masterminds. Alors pas officiellement, tu vois, c'était un groupe de copains, un groupe de potes avec qui je fais encore des déjeuners, avec qui je fais encore des dîners. Et ah oui, ça c'est important de le savoir, c'est que j'adore la bonne bouffe. Et donc le mastermind, c'était un prétexte aussi, je dis ça en déconnant, mais il y a un peu de vrai aussi dedans, c'était de pouvoir faire des bonnes bouffes avec avec des potes à la base entrepreneurs. Et si tu veux, c'est en 2016 où ça a vraiment émergé, c'est que je me suis rendu compte que organiser, faciliter, structurer tous ces échanges et rassembler surtout des entrepreneurs, ça faisait partie de ma zone de génie, si tu veux. Parmi toutes les compétences que l'on a, je fais ça en fait depuis que je suis gamin, de rassembler autour de moi, de connecter. Et c'est juste à ce moment-là où j'ai pris la décision d'en faire un business model à part entière.
Ah, c'est intéressant. Puis je te le disais un petit peu avant le podcast, Romain, j'ai personnellement intégré un mastermind pour propriétaire d'agence marketing très récemment, que je trouve assez intéressant parce que, bon, bien entendu, tu es capable, un petit peu comme tu le dis, d'être entouré de gens qui partagent la même passion, le même travail que toi, et d'être capable d'aller chercher certaines informations qui peuvent aider ton organisation à grandir au jour le jour. Maintenant, une chose que je me suis rendu compte, Romain, à l'intérieur du mastermind dans lequel que j'ai intégré, c'est, bien entendu, tu as un leader qui va mener un peu les conversations, qui va mener les échanges, mais la beauté d'un mastermind réside beaucoup grâce aux membres qui sont à l'intérieur même de Mastermind. Et si maintenant je me mets dans ta position en 2016, quand t'as lancé le Mastermind, ben au départ, t'as pas beaucoup de gens à l'intérieur de Mastermind parce que comme n'importe quelle entreprise, tu débutes. Comment qu'on est capable de lancer un Mastermind au départ quand la grande valeur, comme je l'ai dit, de ce type de produit-là réside dans ses membres et qu'on n'a pas encore beaucoup de membres à l'intérieur de son Mastermind?
Eh ben écoute, pour tout te dire, t'as pas besoin forcément d'avoir beaucoup de membres pour avoir une qualité dans un mastermind. Pour te dire, nous, la première année, on était 10 membres dans le mastermind 67. Deuxième année, ça a augmenté, on l'a quasiment doublé. Et puis au bout d'un moment, on a ouvert plusieurs masterminds par rapport au niveau des membres. Et donc, on est là, pour la cinquième année, on est plus d'une centaine de membres actifs sur l'ensemble des masterminds. Mais ce qui est hyper important, et c'est marrant que tu parles de leader, je crois qu'effectivement, un mastermind est guidé. Il y a une communauté qui est là, et il y a forcément un leader qui est là un petit peu pour donner la direction, battre le tempo. Et finalement, ce que j'ai retrouvé, parce que des masterminds, il en existe, tu es dans un mastermind, il y a le mastermind 67, il y en a d'autres, les valeurs du leader quand même se retrouvent fortement dans la façon dont est généré. Enfin, le leader va attirer certaines personnes en fonction de ses valeurs et va aussi donner un certain goût, une certaine expérience au groupe. Donc, c'est un petit peu mon message à travers ta question, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être beaucoup et surtout, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gens qui soient ultra connus dans ce mastermind parce que je sais que parfois, on peut se dire il faut qu'il y ait telle ou telle personne pour lancer son mastermind parce que s'il y a telle ou telle personne, ça va attirer d'autres personnes. Certes, la qualité des membres, c'est quelque chose qui est important, mais aussi, des fois, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, notamment dans ces groupes-là, c'est m'assurer que les membres ont cette notion de partage. Vraiment, leur première volonté, plutôt que de tirer profit du mastermind, c'est qu'est-ce que je peux apporter à ce mastermind et leur niveau d'énergie. Parce que tu connais certainement cette expression si tu es le moins intelligent d'une pièce et que ou le plus intelligent d'une pièce, t'es pas dans la bonne pièce. Et en fait, moi, je trouve que c'est plus sympa de créer une pièce où tout le monde devient plus intelligent. Voilà, tout le monde a à apprendre de tout le monde.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis. T'as mentionné un terme important, le terme échange, le terme partage. Comment tu t'y prends, toi, en tant que personne responsable du mastermind pour faire en sorte que les gens soient généreux de leurs conseils, soient généreux de leur temps? Parce que j'ai été capable de voir également que c'est quelque chose qui est pas nécessairement inné pour tout le monde dans un mastermind de partager de l'information de manière continuelle. Comment t'es capable, toi, de ton côté, de faire en sorte que l'infrastructure à l'intérieur de tes différents masterminds donne la possibilité aux membres de facilement partager l'information qu'ils peuvent apprendre avec leur organisation au jour le jour?
Alors ouais, le partage déjà ça s'apprend. Certaines personnes qui sont innées pour ça et qui le font, puis pour d'autres qui sont plus réservées, qui ont besoin d'un temps d'adaptation, hein, qui sont un peu plus discrets. Moi d'ailleurs je suis un peu comme ça au démarrage. Je préfère faire un partage à une personne en particulier à un moment donné plutôt qu'un partage de groupe. Donc ça dépend vraiment des gens. Maintenant ce qui est sûr c'est que la première chose pour s'assurer que il y a vraiment des échanges dans un mastermind, c'est s'assurer de la qualité du groupe. C'est clé. Et un des trucs qui peut faire qu'un mastermind capote, c'est notamment quand le groupe n'a pas cette qualité de valeur, d'énergie, voilà, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts aussi dans ce genre de groupe. Et c'est vrai que mon rôle, tu vois, en tant que leader, c'est aussi d'être un gardien, tout simplement. Donc je suis assez clair, si tu veux, quand on constitue les groupes, je fais vraiment très attention à qui il y a dedans, parce que voilà, c'est comme une pomme, quand il y a un verre dans une pomme, si tu veux, la pomme est pourrie, donc je fais vraiment très attention à ça. Et ça m'arrive régulièrement de, alors je dirais pas de refuser des membres, mais de leur dire que c'est pas le bon moment pour eux maintenant, quoi. Ça, c'est un peu le prérequis. Donc, si tu veux, on n'est même pas dans l'infrastructure du mastermind. On est déjà avant d'avoir lancé le mastermind. C'est comme quand tu pars en bateau pour une expédition. Tu vois, si tu veux faire la transatlantique, t'as envie de t'assurer que sur le bateau, il y a quand même des gars avec toi qui tiennent la barre, quoi.
Bien sûr.
Après, peut-être la deuxième étape, et c'est on est encore sur du fondement de mastermind. On n'est pas encore sur des techniques, si tu veux, mais c'est d'instaurer une bulle de confiance. L'aspect confidentialité. On a vraiment cette approche, nous, dans nos groupes, de créer des familles entrepreneuriales. Si tu veux, t'as ta famille personnelle. C'est un ensemble de personnes avec qui tu es très proche, avec qui tu peux vraiment partager, dire la vérité, d'être 100% toi-même. Et pour, si tu veux, avoir un mastermind qui, à la fois un membre s'éclate dans un mastermind, à la fois que le mastermind lui apporte beaucoup, il faut qu'il sente cette bulle de confiance. Parce que tant qu'il va pas être en mesure de se dire, avec ces personnes-là, je peux être moi-même, je peux dire la vérité, tu progresses pas. Tu sais ce que c'est dans un mastermind, t'es là, tu partages des fois des choses dures dans ta boîte, hein, des trucs que tu peux pas partager avec ta famille, que tu peux pas partager avec ton équipe. Donc, je veille vraiment à ça avec différents dispositifs pour que cette bulle de confiance soit là. Et puis ensuite, effectivement, il y a toute une part de structuration. Et ça fait partie aussi de ma zone de génie. C'est quand j'ai une quarantaine, cinquantaine de membres dans un groupe, c'est comment on structure pour que y ait de l'échange à travers les membres. Donc une des premières étapes aussi, c'est vraiment de créer cette connexion. Moi, j'ai passé quasiment un mois au démarrage d'une année ensemble à juste créer ces échanges, à faire en sorte que les gens connectent ensemble. En vrai, derrière, le travail, pour moi, il est quasiment terminé. Je caricature un petit peu, mais après, c'est juste de pouvoir créer les bons rendez-vous au bon moment, les bonnes synergies, les bons échanges, partager les bons contenus. Et je crois que c'est pour répondre à ta question, si tu veux, de comment je structure ça. C'est, tu vois, c'est pas forcément de la technique que j'ai partagée. On en a des techniques, mais ça vient. Ces techniques viennent se mettre au-dessus ces éléments fondamentaux qui sont la qualité du groupe et la bulle de confiance.
Ben, c'est intéressant ce que tu viens de mentionner, parce que j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, mais c'est un petit peu ce que j'entends dans ce que tu dis là à travers les différentes paroles que tu viens de partager, c'est que le plus gros de ton travail se fait au filtre de départ, c'est-à-dire de t'assurer que la personne va avoir les valeurs au bon endroit, cette notion d'échange, et à partir de là, si tu as été capable de voir que la personne a un bon, pardonnez-moi l'anglicisme, fit avec le reste du groupe, ben c'est là qu'on est capable peut-être de faire en sorte que le groupe prenne encore plus en qualité, puis ultimement, ben j'imagine également que ces gens-là doivent être capables d'en parler à leur entourage, parce que c'est la beauté aussi d'un mastermind, de ce que j'ai été capable de me rendre compte de ça, c'est qu'on a quand même une fierté d'aller en parler avec des gens autour de soi, de dire qu'on fait partie d'un certain groupe de gens qui ont beaucoup de points en commun avec nous, qui sont à un certain stade, peut-être plus loin dans leur entreprise, peut-être moins loin que nous dans notre organisation. Quand même une fierté de parler de ça. Est-ce que c'est une des techniques marketing que vous utilisez pour ultimement aller chercher plus de membres?
Ça en fait partie. C'est un peu le « fuis-moi, je te suis » ou le côté... on n'a pas un marketing de la répulsion, mais presque. C'est-à-dire que tu parlais de « fit », de cet anglicisme. Aujourd'hui, par exemple, dans le Mastermind 67, je prends chacun des futurs membres au téléphone pour voir justement s'il y a un double « fit ». Pour voir s'il y a de leur côté leur projet entrepreneurial sur l'année qui vient, est-ce que nous, on peut être en mesure d'y répondre avec le groupe. Et à l'inversement, que cette personne se dise « Ok, c'est le Mastermind 67, c'est vraiment le groupe dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs. » Et à partir de là, il y a ce double fit, et c'est là où on décide « Ok, on commence la relation ensemble » ou finalement, on la commence pas. Donc, il y a un côté finalement de « Tout le monde ne rentre pas dans ce genre de groupe, il faut être prêt. » Certains sont pas prêts, ça arrive plus tard, c'est ok. Certains ne seront jamais prêts, et c'est complètement ok. Moi, je suis à l'aise avec ça. C'est un choix que j'ai fait dès le départ, hein, parce qu'on pourrait être beaucoup plus dans ces groupes-là. Mais l'idée, c'est que moi, je veille vraiment à ce que l'ADN de ces groupes, les valeurs, les échanges, la bulle de confiance qu'il y a dedans, soit maintenue. C'est vraiment clé pour moi pour la. Alors, j'allais dire, c'est pareil, j'ai un anglicisme, sustainability, enfin le côté genre pérennité, voilà.
La pérennité, exactement.
Ouais, c'est ça. Et forcément, après, je suis marketeur dans l'âme. Je sais aussi que le fait de créer ce sentiment d'exclusivité, ce sentiment aussi haut de gamme, ce sentiment de faire partie d'un groupe qui est accessible à très peu de personnes, c'est un peu comme dans les fraternités, si tu veux, dans les universités américaines. Pour rentrer, il faut montrer patte blanche, il faut poser candidature, il faut avoir été recommandé. On utilise forcément, d'un point de vue marketing, de manière plus ou moins visible ou non, ces éléments, finalement.
Tu as parlé de groupe, donc bien entendu, des gens peuvent arriver des fois au même stade dans leur entreprise. Après, c'est la nature humaine, certains vont aller plus vite, certains vont aller moins vite dans le développement de leur organisation. Et à un certain moment donné, il va y avoir peut-être des disparités entre certains membres, certains qui vont être rendus à plusieurs millions de chiffres d'affaires, certains qui n'auront pas encore peut-être atteint le demi-million de chiffres d'affaires. Comment tu t'y prends quand tu te rends compte qu'à un certain point à l'intérieur d'un groupe, il y a des gens qui devraient être peut-être dans un environnement où est-ce que les gens qui les entourent sont un petit peu plus loin dans leur développement? Peut-être qu'une certaine personne n'a pas suivi le groupe. Comment tu t'y prends pour s'assurer que l'environnement, que les membres dans un groupe sont toujours... font toujours, ça fait toujours du sens de les avoir ensemble. Est-ce qu'il y a une technique que tu t'y prends? Est-ce que tu revois tes cohortes peut-être à chaque trimestre pour s'assurer que le fit est toujours bon?
Ouais. Alors nos cohortes, on les revoit de manière annuelle, non pas trimestrielle. Et c'est vrai que quand je te disais qu'on a aujourd'hui 3 groupes, c'est que là on parle du Mastermind 67, donc avec comme promesse passer du 6 chiffres à 7 chiffres annuels, d'où le... C'est aussi ce petit clin d'œil aux 6 to 7 figures du marché américain. Mais de ça, on s'est rendu compte que certains n'étaient pas encore prêts à être dans ce groupe-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le petit frère, l'incubateur 56, pour justement travailler sur les bases. Et puis, il y en a qui étaient du coup beaucoup plus avancés et qui se sont développés dans le programme. Et c'est pour ça qu'on a créé le Network 78 pour la suite, donc le grand frère. Et mais c'est pas arrivé tout de suite. Au démarrage, il n'y avait qu'un seul groupe. Il y avait beaucoup plus de disparités. Ceci étant dit, là, on parle de développement business. Mais tu sais que le développement business, il vient aussi par le développement humain, de l'entrepreneur, du mindset, du dev perso, de la spiritualité. On est des êtres humains, on est pluriel. Et c'est vrai que des fois, je suis tellement étonné d'avoir des membres qui, sur le papier, en termes de chiffre d'affaires, sont juste colossaux. Mais discuter de chamanisme, discuter de sujets incroyables pour ouvrir un petit peu leur conscience et inversement. Donc, moi, je pense qu'il y a une inspiration qui est mutuelle, mais qui est basée sur les différentes facettes qu'on peut développer en tant qu'être humain. Donc, c'est pour ça que, à partir du moment où les valeurs des membres sont là, au sein d'un même groupe, on peut avoir des disparités en termes de chiffre d'affaires, mais dans tous les cas, chacun s'apporte.
Intéressant ce que tu dis. Je parlais avec Martin Latulippe l'année dernière et il me disait une chose un peu par rapport à son mastermind. Lui, il y a un bon mastermind également dans la francophonie, le cercle d'excellence. Il disait les gens s'associent pour des valeurs et se dissocient pour des valeurs. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'à un certain point, à un moment donné, c'est ce qui va servir de filtre, c'est ce qui va servir de segmentation également de ton côté pour t'assurer que quelqu'un est au bon endroit. Je serais curieux que tu nous parles un peu du développement du mastermind à travers les années parce que tu le dis, le fait que tu as créé ces différents groupes-là est venu de la densité de gens que tu avais à l'intérieur de ton mastermind, que tu t'es rendu compte que tu devais les segmenter. Mais comment que ça s'est passé, toi, de ton côté, d'analyser ça? Est-ce que tu avais déjà un plan en tête dès le départ que ça allait se dérouler comme ça? Est-ce que tu avais des modèles que tu es allé chercher peut-être aux États-Unis de gens qui ont un modèle d'affaires similaire au tien que tu pourrais peut-être adapter à la francophonie? Comment tu as été capable de structurer le tout pour arriver à où est-ce que tu es aujourd'hui?
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a le côté on est du style à construire l'avion en plein vol. Donc c'est qu'on fait les choses et au fur et à mesure on itère. Une de nos valeurs dans la boîte, c'est vraiment de se nourrir du feedback de nos clients pour développer les programmes. Et ça, si tu veux, c'est il y a une grosse partie du développement du modèle d'affaires qui vient de nos clients eux-mêmes. Voilà. Par exemple, quand je parlais du 78, à la base, l'idée c'était pas de le construire. Il y a 5 ans, on n'en était pas là non plus. Et c'est la demande qui a fait qu'à un moment donné, oui, on va créer ça pour eux. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis après, un deuxième élément, effectivement, modèle d'affaires aux États-Unis, on est toujours très intéressant de voir ce qu'il fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des réseaux aux États-Unis, mais même en fait, nous, on en est en France. Je sais pas si vous en avez vous aussi de votre côté. Mais on a des BNI par exemple, c'est des réseaux d'entrepreneurs. On a Toastmaster aussi, je sais pas si tu connais, qui sont prises de parole en public. Alors ça, ce sont des entreprises que j'espère à un moment donné on pourrait aller les titiller, mais ils ont un impact mondial. Et à la base, c'est commencé juste par rassembler des entrepreneurs entre eux. Maintenant, sur la démarche, c'est vrai qu'on a une démarche un petit peu qui est particulière, puisque des fois, je suis en train de me dire qu'on est une boîte d'événementiel et qu'on est une boîte où on crée de l'expérience. Si tu veux, ça a énormément évolué. C'est qu'au démarrage, je pensais que les membres venaient pour les résultats, venaient pour la structure que l'on apporte. Mais au final, je me suis rendu compte que les gens, en fait, restent et parlent par rapport à l'expérience qu'on arrive à leur faire vivre, aux émotions qu'on arrive à leur faire vivre. Donc, si tu veux, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment développé ces dernières années et sur lequel on met encore plus de focus. Parce qu'au final, quand tu regardes à la fin de ta vie, c'est le moment où tu te rappelles, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ces années-là? Tu vas te rappeler des émotions que tu as vécues, quoi. Pas du compte en banque que tu avais à ce moment-là.
Donc, en gros, puis corrige-moi si je me trompe, pour bien comprendre ce que tu viens de dire, c'est que j'imagine qu'à la base, les gens viennent pour cette structure-là. Ils rentrent dans le mastermind pour la structure, mais la rétention va venir de l'expérience et de la communauté qu'il va y avoir avec les membres.
Ouais, c'est ça. Ils viennent pour la structure, ils viennent pour la communauté aussi. Maintenant, depuis quelques temps, bon, voilà. Si on me connaît un petit peu, on sait un peu l'énergie des personnes que j'arrive à rassembler. Mais c'est ce qui est sûr, c'est ce que l'on reste après pour la communauté. On reste, voilà, c'est vraiment une famille. Hein. Ta famille, tu la quittes pas forcément comme ça. Hein. Quand tu t'y sens bien, quand cette famille, elle te porte, elle t'aide, elle te fait avancer, tu grandis avec. On se positionne vraiment comme ça, nous.
J'aimerais revenir un petit peu en arrière sur la dernière année, Romain. Donc, beaucoup de choses qui ont été impactées pour le volet événementiel. Bon, la COVID-19 a obligé beaucoup d'organisations qui offraient un service en présentiel à se transformer en ligne. Bien entendu, il y a de la valeur à faire des rassemblements en ligne, d'échanger des idées. C'est comme ça, moi, présentement, que je vis le mastermind dans lequel que j'ai intégré. Mais comment ça se déroule de ton côté? Parce que j'imagine que avant la pandémie, beaucoup d'événements que vous alliez faire étaient en présentiel. Tranquillement, peut-être que vous retournez à cet endroit-là. As-tu senti peut-être que l'énergie avec les membres était plus difficile à aller chercher? Est-ce que tu as senti qu'il y avait quand même un partage d'informations qui était intéressant? Comment ça s'est déroulé? Puis comment que peut-être tu ferais les choses différemment dans le futur si on touche du moins, mais qu'une autre crise de la sorte réarriverait?
Tu as tellement raison. Quand l'année du confinement, ça a été un vrai challenge. On a notamment, nous, on a des rencontres qui sont trimestrielles. Et on en a une qu'on a fait totalement virtuelle. Donc c'était à l'époque où, si tu veux, on n'avait aucune expérience là-dessus. Donc on a beaucoup appris, on a réussi à délivrer nos rencontres, et très clairement, à mon sens, on n'a pas pu délivrer l'expérience. Et c'est ça, pour moi, Zoom, c'est juste génial pour le contenu, pour faire travailler les gens, en breakout, ce genre de choses. D'ailleurs, on se sert ça énormément de Zoom entre nos rencontres, tu vois, pour créer ce lien et continuer à avancer. Mais quand tu veux créer de l'expérience, l'expérience, ça se passe corporellement, physiquement, passe autour d'un verre jusqu'à pas d'heure parce que, voilà, on refait le monde. Donc, ça a été un vrai challenge. Maintenant, cette année, j'ai envie de te dire, ça a été un de nos plus gros challenges avec l'équipe, c'est qu'on a réussi à passer entre les gouttes. Je me rappelle encore de notre rencontre de janvier cette année où on devait, ça se déroulait en Suisse, un super chalet, tu vois, en montagne. 3 jours avant, on nous appelle, changement gouvernemental, on peut pas aller en Suisse, quoi. OK. 4 jours après, on était en Italie. Tu vois?
Ah ouais, ouais. OK.
Ah oui, mais on a dû jongler en Europe. Tu vois, on a fait une rencontre en Italie alors qu'on devait la faire en Suisse. On a été en Espagne aussi. Enfin, bon, après, franchement, j'ai des membres qui sont juste géniaux et qui s'adaptent, hein, qui voient la valeur et qui, voilà, ils ont vraiment été cool avec ça. Parce que eux aussi, mine de rien, vivent ça des fois avec leurs clients. Donc, je pense que ça joue. Mais, dans tous les cas, on a dû énormément jongler, et s'adapter. Hein. Chaque rencontre, c'était OK. À quelle sauce on va être mangé cette fois-ci?
Donc, c'est quoi la distinction du contenu que tu vas aller livrer en présentiel comparativement du contenu que tu vas livrer en ligne? C'est ça un petit peu que j'essaie de comprendre parce que j'imagine que tu dois trouver la bonne balance. C'est-à-dire, si tu es en présentiel une fois ou 3 mois avec tes membres, ben on va pas uniquement se retrouver autour du tableau à parler de stratégie marketing, à parler de stratégie développement d'affaires. On va peut-être faire des activités spécifiques, travailler sur l'esprit d'équipe. Bref, quelle est la balance de contenu que tu vas délivrer entre le présentiel et le volet en ligne?
Moi, je te dirais, en ligne, c'est essentiellement contenu. Enfin, ça va être, je sais pas, 70%, 80% du contenu. Par exemple, on a une plateforme membre, tu vois, avec des vidéos de manière asynchrone, tu peux avancer. Et puis après, si tu veux, ce côté un petit peu, on a des points de contact par petits groupes, ce qu'on appelle des pods ou des groupes d'accélération, 4-5 membres. On a quelqu'un dans l'équipe qui facilite tout ça. Si tu veux, c'est pour garder le momentum entre les rencontres. Donc, si tu veux, on est très sur le contenu, on est très sur la stratégie en ligne, beaucoup plus. Et en fait, ce côté expérientiel, c'est vraiment la rencontre. Alors oui, il y a du contenu, il y a des guests qui arrivent, mais si tu veux, on essaie en délivrant ce contenu-là, que ça soit pas juste du contenu. On essaie vraiment que les membres aient des insights sur eux. Si tu veux, en ligne, t'as un déficit d'attention, hein, sur Zoom au bout d'un moment, si tu veux. Tu en peux plus, donc passer 3 jours sur Zoom, c'est chaud, hein. C'est chaud.
Ah ouais.
Mais par contre, tu vois, moi, je suis persuadé que le développement business vient aussi par le développement humain, et le développement humain, ça passe par le présentiel.
Puis comment tu t'y prends pour le développement humain? Je suis curieux, je pose plein de questions aujourd'hui, on dirait
ouais,
que
je suis
un étudiant du mastermind.
Faut que je t'invite, Antoine. Non, mais c'est vrai. Si tu veux, ça passe par des exercices de développement personnel. Ça passe par juste des conversations à cœur ouvert dans des petits groupes. Ça passe par c'est difficile à palper en fait. Justement, une expérience présentielle, ça se vit, mais est-ce que je pourrais essayer de te trouver des exemples? On fait par exemple ce qu'on appelle des hot seats. Hot seat, c'est vraiment tu arrives et tu présentes ta problématique Souvent, c'est une situation que tu dois vraiment débloquer ou un challenge majeur qui doit arriver. Concrètement, là, on a vu une membre à la dernière séance qui allait être maman. Donc, tu vois, comment gérer le business quand le bébé arrive? Bah, je pense que l'expérience de toutes les mamans qui étaient là aussi, si tu veux, aide. Ça, en ligne, tu peux pas le faire, si tu veux. Donc, les hot seats, c'est quelque chose qui marche énormément. Et c'est aussi, à un moment donné, le présentiel, si tu veux, pour faire un stop. Parce que tu sais ce que c'est une entreprise, on est dedans 24-24, on prend pas le temps pour soi, pour réfléchir sur le long terme, réfléchir, voilà. Et c'est vrai que le présentiel, c'est un moment où on coupe l'ordinateur et puis on prend ce temps de manière trimestrielle. Je trouve ça bien parce que si tu veux, l'être humain, il arrive à se fixer des gros objectifs, mais au bout d'un moment, il perd un peu le fil de ses objectifs. Souvent, c'est 90 jours. Bah, cette pulsation trimestrielle, ça permet justement de relancer la machine.
Intéressant. Je serais curieux, Romain, de te poser peut-être des petites questions personnelles que j'aime poser à tous mes invités qui viennent sur le podcast. Mais avant de rentrer sur ces questions-là, j'aimerais que tu me dises un peu comment vois-tu l'avenir de tes différents mastermind. Est-ce que tu as une vision précise de garder le tout comme ça? Est-ce que tu veux peut-être développer des services, des produits différents à l'intérieur de la communauté que tu as été capable de créer à travers les années?
Comment je le vois actuellement? La première chose, c'est déjà d'itérer sur la livraison de nos trois programmes. Ça, c'est quelque chose que l'on fait, on itère, on améliore. Quand je te parlais du Network 78, ça, c'est un lancement très récent. Donc, tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 3 mois. Je t'aurais dit, c'est ça le prochain développement. Mais bon, maintenant, c'est lancé. Maintenant, en fait, là, on a des challenges plus de... Moi, je suis vraiment partisan, si tu veux, dans son développement d'affaires, d'avoir un cœur, tu veux, d'expertise, de savoir-faire. Et c'est vrai que quand tu parles, par exemple, de vendre des services au sein de la communauté, ce genre de choses, pour moi, c'est des extras. Mais si tu veux, c'est pas le cœur du business. Par contre, le business du mastermind a certains challenges, des challenges de scalabilité notamment. C'est pas comme une formation en ligne, si tu veux. Au bout d'un moment, quand je te dis que le groupe, la qualité du groupe et le nombre de personnes dans ce groupe pour avoir cet esprit de famille, si tu veux, t'es capé au bout d'un moment. Et l'idée, c'est là aujourd'hui, le développement des programmes, c'est on peut réfléchir à soit doubler, soit tripler les groupes, avec notamment des coachs associés qui prendraient mon rôle pour justement faciliter l'idée. Les groupes, mais aussi on réfléchit à pourquoi pas collaborer avec d'autres secteurs du web, que ce soit l'e-commerce, start-up, pour vendre notre savoir-faire, si tu veux, notre expertise autour de la commercialisation et la livraison d'un mastermind. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui veulent lancer leur mastermind en interne. Ils voient le principe, mais en fait, derrière, il y a un savoir-faire qui se développe. En tout cas, nous, on le voit et comme on améliore le truc en continu, on voit aussi toutes les pistes. Mais c'est l'idée, voilà, de pouvoir peut-être en marque blanche ou avec une collaboration, aider à la commercialisation et surtout à la livraison derrière. Parce que la clé, je vais te dire, vendre, limite, c'est facile. Tu peux faire une année, 2 années, mais si au bout de, si tu livres pas correctement, le truc capote, quoi.
Intéressant.
Voilà un peu les pistes pour le futur.
Puis je terminerai, parle-nous un peu de à quoi ressemblent tes lectures là, pour te garder informé sur le monde business, sur le monde entrepreneurial.
J'ai 2 lectures que je peux te partager là qui sont récentes et qui m'ont beaucoup marqué. Un premier livre, c'est celui de Ray Dalio qui s'appelle Principles.
Ouais.
Tu l'as lu? Ouais. c'est très très puissant en termes de développement personnel, mindset, business, enfin tout ce que tu veux.
Bah oui.
Et puis un autre qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois, c'est un ouvrage de Chip Is and Dan Is qui s'appelle Power of Moment, et c'est très corrélé avec ce que l'on fait dans les masterminds. C'est comment en fait tu réfléchis de manière stratégique à créer des vrais moments, des vraies expériences, parce qu'il y a une recette pour ça, et dans ce bouquin il y a une recette qui est vraiment très inspirante.
C'est intéressant ce que tu dis. Celui-là je ne le connais pas, donc je vais le mettre sur ma liste.
Ouais, c'est les mêmes auteurs que Made to Stick. Enfin, les gars ils en ont écrit des best-sellers.
Ah, ok, intéressant. Puis parle-nous un peu peut-être balado podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
J'en écoute. Ben écoute, avant d'intervenir sur Hypercroissance, j'écoute Hypercroissance, donc ça je peux déjà le dire. Il y en a 2 autres aussi que j'écoute en ce moment, c'est le Panier, donc qui est fait par Cosa Vostra, donc podcast e-commerce en France. Et puis un autre sur le marché américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Exponential Wisdom, qui est une conversation entre Peter Diamandis et Dan Sullivan, qui parle essentiellement des technologies du futur et qui moi m'inspire beaucoup. Tu en parles d'intelligence artificielle, on parle de comment dire de vie après la mort. Des fois, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui se discute dans ce podcast.
Ah, Peter Diamandis a une vision de la vie, a une ambition qui est plus grande que nature. Hein. Tu lis ses ouvrages, tu écoutes un peu parler ce monsieur-là. toujours l'impression que tu penses trop petit, tu penses trop petit, tu penses
exactement.
Trop petit. Et lui, on dirait que c'est jamais assez gros pour lui. Et j'avais une discussion d'ailleurs sur un podcast à un certain point, à un moment donné, avec Jonathan Defoy, qui est fondateur de Food Hero, qui admire beaucoup Peter Diamandis. Puis il me parlait de ça, puis il dit, à chaque fois que je regarde un peu ce qu'il fait, j'ai toujours l'impression de me sentir un peu comme un imposteur, de me dire, ben voyons donc, moi c'est trop petit ce que je fais comparé à lui, là.
Ouais. Ça te permet d'élargir ta vision et de penser en x10. Mais ça fait du bien.
Ben, je pense que c'est bien parce qu'il faut comprendre qu'à un certain point, des fois, accomplir un truc beaucoup plus gros est pas tellement plus difficile paradoxalement. Il faut simplement avoir la vision au bon endroit. C'est d'ailleurs ce que je discutais il y a 2 semaines de ça avec Khalil Zahar qui est venu sur le podcast. Je parle beaucoup des derniers podcasts, mais ils m'ont grandement marqué. Khalil, il a une entreprise, il vient de lever 100 millions de dollars. Il a son entreprise, elle a bientôt une valorisation plutôt de 1 milliard de dollars. Et il me disait, et lui, il a changé littéralement de secteur de marché. Il était beaucoup dans le mode du technologie, du hardware au début. Puis là, tranquillement, il s'est enligné vers une plateforme en ligne où est-ce que les gens peuvent faire de la boxe à domicile. Et il dit, le moment que j'ai été capable de vraiment grandir et de faire croître mon entreprise de manière exponentielle, c'est du moment que j'ai compris que pour avoir une entreprise de classe mondiale, je dois desservir un marché qui est excessivement grand. Et c'est pas tellement plus compliqué de le faire. Tu dois simplement avoir la vision de comprendre que si ton marché est plus petit, ben, t'as beau offrir le meilleur service, le meilleur produit au monde, il va être capé à un certain point en termes de croissance. Donc, Peter Diamandis, pour revenir à ce point, est capable de te faire penser très, très grand. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, allez googler Peter Diamandis. C'est une personne assez exceptionnelle. Je terminerai, Romain. À quoi ressemblent tes routines pendant, avant et après le travail?
La question qui tue, je viens d'avoir un deuxième bébé là qui a 2 mois. Donc, okay. Mes routines en ce moment, c'est parti un peu en cacahuète, tu vois. C'est pas. Mais au-delà de ça, il y a un truc que je fais chaque matin et chaque soir après la journée de travail, c'est de marquer des gratitudes. Et notamment, j'utilise le 5 Minutes Journal. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Il y a une version papier. J'aime beaucoup la version application sur iPhone aussi. Qui permet comme ça le matin de se connecter, gratitude, de marquer aussi qu'est-ce qu'on souhaite accomplir aujourd'hui. Et puis, à la fin de la journée, c'est de refléter un petit peu sur cette journée qui vient de se passer, ce qu'on a accompli, les insights aussi, comment faire d'une journée un moment d'apprentissage. C'est ma routine et s'il y a bien une chose que je ne manque jamais, c'est celle-ci.
Intéressant. Puis, Romain, on a une audience sur hypercroissance d'entrepreneurs qui peut-être ont des cours en ligne qui voudraient commercialiser. Comment ils peuvent en apprendre plus sur toi? Comment ils peuvent en apprendre plus sur tes différents produits, services?
Écoute, il y a une adresse, une URL, c'est romaincollignon avec 2L.com. Et à partir de là, on a tout notre écosystème qui se déroule, les masterminds, nos vidéos sur YouTube, les blogs. Vraiment, tout ce qu'il faut, c'est sur cette URL.
Merveilleux, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Romain Collignon, merci énormément d'avoir partagé avec nous aujourd'hui les conseils pour créer et surtout ce que j'ai appris aujourd'hui, entretenir un mastermind, parce que tu le dis, créer, vendre, c'est peut-être facile, mais l'enjeu va vraiment venir sur la pérennité du mastermind et c'est à ce moment-là qu'on doit s'assurer de donner une expérience complètement incroyable aux gens qui font partie de notre groupement. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je vais garder en tête aujourd'hui. Merci énormément. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 97e épisode de Hypercroissance vous aura donné le goût de faire le saut et d'intégrer un mastermind. Comme mentionné en introduction, j'ai commencé moi-même à le faire en début d'année et forcé d'admettre que les résultats sont assez positifs. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir parler de manière continue avec des gens qui vivent les mêmes réalités que vous. Des réponses qui pourraient vous prendre des mois à trouver sont souvent sur le bout des lèvres d'un membre d'un mastermind. Et je termine en vous invitant à m'ajouter sur LinkedIn. J'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez des super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Hypercroissance.